Évasion. Radio Évasion sur 100.4 FM. Les circuits courts de l'information.
Dans un instant, c'est le LEM. Aujourd'hui, on reçoit une association qui nous dit tout sur les troubles 10. En seconde partie, on découvre des contes de Namibie. Et bien sûr, les agendas et suggestions culturelles de nos structures locales. Vous êtes dans LEM et ça commence maintenant.
LEM, l'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion sur le 100.4 FM et aussi sur le site internet de Radio Évasion, radioévasion.net, pour l'éternité. Aujourd'hui, nous recevons l'association DFD29. C'est une association qui a pour but d'accompagner les personnes atteintes de certains troubles 10. Elle nous présentera et nous parlera bien sûr de l'association, mais d'abord, il était important pour elle, comme pour nous, de faire le point, de nous éclairer sur ce phénomène. Bonjour Nancy Dosset.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur d'anglais et FLE, ça veut dire français langue étrangère à l'université. Langue étrangère à l'Université de Bretagne Occidentale, pardon.
Oui.
Et vous êtes aussi la présidente
de
DFD29. Voilà. Alors, ma première question, c'est comment en êtes-vous venu à faire de l'accompagnement et de la sensibilité pour les troubles 10 ?
Avant de travailler à la fac, j'étais donc déjà enseignante, mais en lycée professionnel. Et là, il est vrai que beaucoup de mes lycéens avaient des troubles 10, diagnostiqués ou pas. Et donc la prise en charge arrivait beaucoup trop tard dans leur parcours. Ça m'a alertée. Après, j'ai demandé ma mutation. Je suis arrivée en Bretagne. Je n'avais pas envie de recommencer tout de suite dans l'éducation nationale. J'ai fait une pause et c'est là que j'ai creusé tout ce qui concernait les troubles 10, toutes les prises en charge possibles, les associations existantes autour de ces troubles 10.
Alors, vous avez décidé de rejoindre la DFD. Alors, la DFD, c'est une association nationale, puisque DFD veut dire Dyspraxie France 10. Alors, pourquoi vous avez choisi celle-ci plutôt qu'une autre ?
Parce qu'on m'a accueillie.
Simplement.
Disons que je crois que c'était en 2014 que parallèlement à mon travail à la fac, j'offre aussi des prises en charge pour les 10. Et donc il y avait une personne dans le Finistère, Sandra Busignès, qui était la représentante départementale de DFD dans le Finistère et qui souhaitait créer l'association. Donc elle est venue me rencontrer pour savoir comment je travaillais. Elle m'a proposé au début d'être la secrétaire de l'association qu'elle créait, DFD29 déjà, donc elle avait le nom. Et au bout d'un an, elle a dû partir, des raisons professionnelles, et j'ai pris le relais et c'est comme ça que je suis devenue la présidente. Le hasard des rencontres, s'il y a un hasard de rencontres.
D'accord. Donc, vous êtes venu nous parler de l'association donc DFD29. Vous êtes venu dans un premier temps, parce qu'on vous retrouvera la saison prochaine, nous présenter ces troubles que l'on appelle 10. Ce sont des troubles qui sont assez méconnus, qui sont même plutôt obscurs. On parle de 10 sans trop savoir de quoi on parle. Alors, Nancy, ça veut dire quoi, 10 ?
Alors, être 10, déjà en effet, il y a plusieurs troubles 10. Le plus connu, je pense, est la dyslexie. Évidemment, il y a dyscalculie, dyspraxie, ça, on commence en effet à être dans le moins connu. Tout ce qui est trouble 10 concerne le dysfonctionnement. À chaque fois, ce sont des mots compliqués, hein, donc je vais essayer de faire le plus simple possible. Dysfonctionnement, c'est-à-dire ça bug au niveau des fonctions cognitives. Alors, les fonctions cognitives, c'est quoi ? C'est la capacité de notre cerveau à communiquer, à percevoir l'environnement, à se concentrer, à se souvenir et à accumuler des conséquences. Donc c'est à ce niveau-là que ça pose problème. Et pour les troubles 10, évidemment, ça impacte surtout le langage, l'écriture, le calcul, les gestes, l'attention. Donc voilà. Par contre, je précise, troubles 10, il n'y a aucune déficience intellectuelle globale avec les troubles 10.
Oui, voilà, c'est pas parce qu'on est, on est 10 qu'on n'est pas intelligent.
Ça n'a rien à voir.
Rien à voir. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés de gravité ? Si on peut dire degré de gravité ?
Oui, enfin, c'est plus ou moins sévère. Et on a fait léger. Pour certains, c'est léger. Pour d'autres, ça impacte plus leur quotidien, leur scolarité, leur travail. Donc là, on est dans le plus lourd, dans le plus grave, sévère.
Et comment on détecte un trouble 10 et à partir de quel âge on peut commencer à dépister ça?
Alors, officiellement, pour la dyslexie, en France, on veut 2 ans de retard sur la scolarité. Étant donné que la dyslexie impacte surtout l'apprentissage de la lecture, on est supposé apprendre à lire en CP en France. Donc forcément, là, le diagnostic, il tombe en fin CE2, on va dire. Pour la dyspraxie, les mouvements... quand je dis les mouvements, je synthétise très très rapidement. Là, ça peut se remarquer dès la maternelle. Dès la maternelle, on voit bien que le gamin, il est mis sur la touche quand il faut jouer avec le ballon, qu'il ne court pas avec les autres. Enfin, au niveau des mouvements, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la dysphasie également, dès la maternelle, on peut s'en rendre compte. La dysphasie, c'est ce qui concerne le son. Alors, soit on ne le comprend pas, soit on n'arrive pas à le sortir correctement. Donc, forcément, à la maternelle, où là, forcément, on commence à structurer les phrases, à avoir un vocabulaire qui s'enrichit peu à peu, on voit que la personne qu'on pourrait suspecter de dysphasique, elle est en décalage comparé aux autres.
Parce que ça reste que de la suspicion.
Ce niveau-là, oui.
Oui, il n'y a pas vraiment quelque chose de remarquable, typique à ça. Et en plus de ça, j'ai quand même une question, ce n'est pas une pathologie.
Non, ce n'est pas une maladie, dans le sens où on naît avec son trouble 10 et on meurt avec son trouble 10. Il y a des rééducations de proposer qui permettent en effet d'avancer tout en ayant ces troubles, de contrôler un peu ça. Mais une maladie, il y a des traitements de proposer, et on ne naît pas avec la maladie.
Voilà, on n'est pas avec ça. Et est-ce qu'on ne peut pas le devenir non plus?
On ne peut pas le devenir.
Ce n'est pas quelque chose qui peut surgir comme
non.
suite à un traumatisme, quelque chose. Voilà, c'est tout de suite.
Oui, alors par contre, on peut très bien ne pas le voir. Ça se remarque notamment chez les hauts potentiels, parce qu'on peut être haut potentiel et 10, l'un n'exclut pas l'autre.
Alors c'est quoi exactement
haut potentiel? C'est et définir tout ça, c'est le cerveau qui... tout comme les 10, ne fonctionnent pas...
Fonctionnent différemment.
Ils fonctionnent différemment, mais en même temps, on est tous différents. Oui. Mais au potentiel, ça va très vite et un peu dans tous les sens, si je devais résumer à nouveau très schématiquement. Et autrefois, les hauts potentiels, on disait les personnes douées. Mais c'est pas le cas non plus, c'est vraiment être trop schématique. Les hauts potentiels ont quand même la faculté de trouver des moyens de compensation très rapidement, inconsciemment. Donc un haut potentiel qui sera dyslexique ou dyspraxique ou dyscalculique, inconsciemment, il va mettre des choses en place qui vont lui permettre d'avancer comme tout le monde, de ne pas être freiné. Et c'est son côté haut potentiel qui met ces choses en place. Résultat, on va s'apercevoir beaucoup moins vite qu'il a des difficultés à l'écrit ou dans les maths ou quel que soit son trouble 10, de par son profil de haut potentiel.
On va d'abord détecter qu'il est haut potentiel avant de détecter...
Pas forcément.
Pas forcément non plus.
Non. Non, non, c'est vraiment tous les troubles 10, c'est vraiment du cas par cas.
J'ai essayé de trouver, moi, une définition à ces troubles, mais une définition pour tous ces troubles. En fait, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas?
Parce qu'ils sont tous différents. 10, c'est difficulté pour quelque chose, donc dyslexie, difficulté pour le lexique, donc pour basculer dans l'écrit. Dyscalculie, c'est tout ce qui est la logique des maths. Tout ce qui se cache derrière tous ces symboles. Dyspraxie, là, on est dans le geste. Dysphasie, on est dans le son. Donc, avoir une seule définition, alors que ce sont tous des domaines variés, c'est difficile.
Et dans la recherche, on en est où exactement? Combien on a trouvé de 10?
Les pourcentages exacts, je ne les ai pas. On va dire 8%. De la population atteinte de troubles 10, 8 à 10%. Mais je crois que là, dans ce pourcentage, on est sur les diagnostiqués.
Ah oui,
donc,
passe.
Voilà. Donc un certain nombre. Donc, on peut donc dire avec ces 8 à 10% dans la population que par classe, on a 2, 3, 10 en moyenne. Et que, étant donné que c'est à vie, forcément, ça continue quand on est adulte. Donc, dans les milieux professionnels, on a le même pourcentage. Hein. Qu'on cache, qu'on camoufle, parce qu'en France, apparemment, c'est mal vécu, mal accepté d'être 10. Donc, voilà, mais ça, les 10%, ils sont là en maternelle, ils sont là au collège, ils sont là au lycée. Alors après, évidemment, selon qu'on arrive ou pas à poursuivre sa scolarité, il y a une sorte de tri qui est fait, hein, donc on en trouve peut-être de moins en moins, puis on monte, hélas. Mais voilà, quel que soit l'âge, on est dans les 10%.
Il y a des 10 qui sont plus graves que d'autres ? Il y a eu une catégorie, on va dire, de 10 ?
Non, enfin, je dirais plus grave, je dirais...
Qui pose plus de problèmes, on va dire. Par exemple, je pensais à la dysphasie, qui semble être une espèce de qui peut engendrer une espèce de cascade de 10 derrière...
La dyspraxie aussi. Hein.
La dyspraxie aussi.
Un dyspraxique pur, j'en ai jamais rencontré, moi. Dyspraxique et un autre trouble 10. Pour moi, ceux qui sont forcément le plus impactés et pour qui le parcours est le plus difficile, c'est ceux qui sont multi-10 et qui sont dans le sévère. Donc là, oui, en effet, parce qu'il faut plein de prises en charge pour plein de rééducation. Si on est dyspraxique et dyscalculique et dyslexique, forcément, il va falloir aller voir l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychomote. Ça impacte beaucoup de choses dans le quotidien.
Bah oui, justement, on va s'intéresser un petit peu au cadre de vie de ces personnes-là. Comment ça se passe dans la vie de tous les jours quand on est 10, par exemple, dans le cadre familial ? Quel genre de problème on peut... Vous rencontrez dans votre association, dans le cadre familial ?
C'est très varié. Hein.
Oui.
Il y a des familles qui s'adaptent au maximum. Des parents qui, un sur les deux, quand c'est deux parents, qui arrêtent de travailler pour accompagner l'enfant, ne serait-ce que faire les devoirs, ne serait-ce que être là donc pour les devoirs, ne serait-ce que l'amener chez l'ergo, chez l'orthophoniste. Donc ça, c'est pour les parents qui peuvent le faire. Certains le font, même si financièrement, ils ne peuvent pas non plus le faire. Donc, il y a beaucoup de burn-out aussi hein, chez les parents. C'est très, très compliqué. Il y a aussi des parents qui sont dans le déni. D'autres qui sont dans la méconnaissance. Enfin, c'est très, très varié.
Est-ce que quand on est 10, on est forcément dépendant des autres quand je dis ça, je pense aux 10 adultes. Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils ont besoin d'une aide, d'un aidant, ou est-ce qu'on peut viser une certaine autonomie pendant toute la période adolescence ?
Non, je dirais autonomie à 100%, c'est pas possible, dans le sens où même si c'est léger, forcément il y aura des moments où la fatigue, le stress fera que il y aura un bug et que là il aura besoin, si c'est léger, momentanément, de l'aide du collègue, de son conjoint, de sa conjointe, pour l'aider à passer le cap.
Vous parliez tout à l'heure des problèmes que ça peut engendrer dans la société, dans la vie de tous les jours. Comment la société, elle perçoit justement ces troubles-là ? Elle prend ça à la légère ou ça commence un petit peu à se réveiller.
Non, ils ne peuvent pas prendre ça à la légère dans le sens où l'école est obligatoire et forcément, il y a quand même, je vous dis, 8 à 10% de 10 dans la population. Donc, il y a beaucoup d'élèves, collégiens, lycéens, qui sont 10 et on ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Donc, déjà, l'éducation nationale essaie de mettre des choses en place pour rendre l'école accessible à tous, de toute façon.
D'accord. Et comment ça se passe pour tout ce qui est activité culturelle, sportive, quand on est 10 ? Est-ce que c'est aussi facile ? Enfin, est-ce que c'est facile ou est-ce qu'il y a des problèmes, je pense, pour le sport, par exemple ou
Le problème vient du fait que, déjà, quand ils sont encore scolarisés, et puis de toute façon, même ceux qui travaillent, ils sont très fatigués de par la concentration dont ils ont besoin pour travailler. Et est-ce qu'il leur reste de l'énergie pour faire autre chose ? Évidemment, c'est à souhaiter, parce que on n'est pas qu'une personne qui travaille ou qu'une personne ou qu'un collégien. Il y a la vie autour, mais déjà cette fatigue freine. Ensuite, quand ce sont des enfants, donc dépendants de la famille, des parents, c'est vrai que certains parents ne veulent pas fatiguer en plus les enfants. Donc, ben non, tu te reposes, comme ça tu pourras aller au collège lundi. Après, c'est un choix que j'entends, hein, mais je pense qu'avant d'être un 10, c'est un enfant et qu'il faut qu'il vive.
Alors, quand vous dites fatigué, je vais prendre l'exemple de la dyslexie. Qu'est-ce que voit un dyslexique et pourquoi est-ce qu'il doit faire des efforts supplémentaires?
Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est du cas par cas. Hein. Oui. Je vais essayer quand même de globaliser. Un dyslexique, si je peux schématiser à nouveau, imaginez, vous ne parlez pas du tout le mandarin, vous êtes parachuté là en une seconde en Chine et on vous demande, en vous aidant des panneaux qui vous entourent, de vous repérer et de trouver tel endroit. Voilà, ça va être compliqué. Donc, le dyslexique, lui, il a quelques... C'est comme un code, il a quelques significations pour quelques symboles, mais il n'a pas tout. Et puis, de toute façon, ça n'a aucune cohérence, ça ne fait pas sens pour lui. Donc, il va falloir qu'il se concentre à 400% pour essayer, avec le peu de code qu'il a, de donner du sens à tout ce qu'il voit décrit autour de lui. Donc, forcément, il sera dans le déchiffrage. De là, basculer dans la compréhension, et puis rien n'est fluide. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration.
On a eu l'occasion dans les LEM de parler du numérique, de parler des démarches administratives qui sont quasiment tout est numérique maintenant. J'imagine que ça leur pose aussi un sacré paquet de problèmes.
Ça dépend. Certains, justement, tout ce qui est informatique, ça, ils ont une facilité, certains. Et là, ça les aide beaucoup. D'autres ont plus de... C'est vraiment du cas par cas et c'est en ça que c'est compliqué, les troubles 10. Donc, pour d'autres, ça va être très, très compliqué. De toute façon, l'ergothérapeute travaille beaucoup sur l'ordinateur.
Okay. Oui, justement. Alors, qui sont les praticiens qui aident, qui accompagnent?
Qui accompagnent, oui. Plutôt. Alors, l'orthophoniste pour la dyslexie, la dysphasie. La dyscalculie également, pour la dyspraxie, alors j'en oublie peut-être, hein, la dyspraxie, on a l'ergothérapeute ainsi que le psychomotricien. J'ai oublié quelque chose, dyscalculie. À cela s'ajoutent également les psychologues qui font passer le WISC. Qui permet de voir s'il y a un haut potentiel ou une déficience intellectuelle aussi, qui permet de voir quels sont les points forts et les points faibles. Et en fonction, c'est un outil en plus pour accompagner la personne. Et puis, il y a tout ce qui apporte aussi du mieux-être. Moi, je pense à la médiation animale, l'équithérapie. Enfin, tout ça, c'est un ensemble... Parce que évidemment, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, ils vont plus travailler dans le scolaire, voilà, mais il n'y a pas que l'école. Il y a aussi le mieux-être en général, la vie avec les amis, avec la famille et soi-même se sentir bien pour avancer mieux.
Alors oui, ça c'est ce que vous proposez dans certains de vos ateliers dans l'association. On va en parler un petit peu maintenant de l'association et on va passer un petit peu de musique et puis vous allez nous parler de ce qu'on vient d'entendre.
Cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux.
Bon, je pense que presque tout le monde a reconnu la lettre de Ronan Luce. Alors, il parle d'une personne qui écrit une lettre avec des fautes d'orthographe et une légère dyslexie, comme il dit, mais il semble en tout cas plutôt attendri, plutôt qu'autre chose. Et si on a choisi cet extrait, bah, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Renan Luce?
Renan Luce, c'est notre parrain. D'ailleurs, il était, c'était quand ça, il y a quelques
12
semaines,
mai, je crois.
Le 12 mai, c'est un vendredi. Ouais, il était sur l'Andivisio. Et en décembre, il était à Brest. Donc, à chaque fois, DFD est invité. On a notre petit stand. Il dit quelques mots de nous sur scène. Et puis, on a droit à nos selfies pour la com après. Donc, il est le parrain de DFD National. Et donc, forcément, il vient avec toutes les DFD départementales. Et alors, pourquoi a-t-il choisi d'être parrain de notre association? Sa sœur est handicapée. Et donc voilà, il est sensibilisé au handicap et il a voulu apporter un peu de lui dans notre lutte. À Renan Luce, donc là on est chanteur, un peu plus variété, et on a également comme autre parrain Pierre Lemaître, écrivain. Et lui, sa fille, il est passé pas mal sur les ondes à la sortie de son quatrième roman. Alors, j'ai que le troisième en tête, c'est Le Grand Monde. Et lui, sa fille est dyslexique et dyspraxique. Et elle est entrée dans la lecture, je crois, à l'âge de 12 ans. Et pour lui, une personne ne peut pas se construire sans l'accès à la littérature. Donc, il lui a lu plus de 2000 livres jusqu'à ce qu'enfin, elle soit plus autonome et qu'elle puisse d'elle-même lire. Donc, il est vraiment super. Dès qu'il passe à la radio, dès qu'il y a une émission télé, il parle de DFD. C'est un grand merci.
Ces deux artistes le font complètement bénévolement.
Hein. Ah oui.
Et vous avez combien de bénévoles dans l'association ?
DFD 29 ?
Oui.
Dans le Finistère, dans le bureau, on est 10. Et je rajouterais deux bénévoles actifs en plus de ces 10 personnes.
Et ce sont des bénévoles qui sont 10 aussi ?
Non, pas tous, je réfléchis. Moi, je ne suis pas 10. Moi, c'est le hasard, ma profession qui m'a amené. On a des parents de 10 et on a des 10. Et voilà, on a tous un lien de toute façon. Et chacun amène sa pierre à l'édifice. Moi, c'est vrai que c'est plus mon regard forcément sur l'éducation nationale et le fait que je sois dedans. On a une de nos membres du bureau qui est médecin, donc c'est vrai que ça nous donne un peu plus accès à ce monde médical également. Moi, je gère plus tout ce qui est événements. Parce que vous disiez, les ateliers qu'on propose aux adhérents, que ce soit la photo, que ce soit le hip-hop, je suis plus dans l'événementiel, on va dire. D'autres sont plus axés sur l'accompagnement pour l'administratif, les dossiers MDPH. Et d'autres sont plus commissions, rencontres avec les personnes, l'ARS. Enfin, ouais, chacun a son potentiel qui met au profit de l'association.
Qu'est-ce que vous faites justement comme atelier pour eux ?
On a fait des ateliers cirque avec des dalles de clowns de Brest. On a fait du hip-hop avec la MJC de Pénard-Créache. Donc il y avait Jux, entre autres, comme professionnel qui est intervenu. Un bénévole a proposé également de faire une journée photographie sur Crozon. Donc, il a été accompagné par un photographe professionnel qui l'a fait aussi bénévolement parce qu'il trouvait que c'était une bonne cause. Là, en projet, on fait aussi les ateliers, les visites commentées qu'on offre aux adhérents de Landerneau, les fonds Édouard Leclerc. Donc là, Tolkien, le 1er juillet, on y sera. Et là, au mois d'août, 28, 29, 30 août, là, c'est le gros projet. C'est en train de prendre sérieusement forme. D'ailleurs, je vois la mairie de Brest le 7 juin pour ça. J'ai des amis graffeurs et on va, les adhérents de DFD 29 vont graffer le mur extérieur de la maison des associations qui est actuellement en rénovation. Et on va faire un super graphe sur l'inclusion, le vivre ensemble. De toute façon, vous aurez des nouvelles de nous, on va passer à la télé.
C'est important pour les 10, ces moments de bien-être ?
Oui, oui, c'est la vie, ça, justement. C'est des moments où ils se rendent compte que dans un autre cadre, eh ben, ils peuvent réussir des choses, comme tout à chacun, se faire plaisir, surtout, et se faire des amis. Voilà, enfin, c'est des moments où tout le monde lâche prise, et on est bien, et voilà, et ça suffit.
Ben, c'est parfait. On va devoir s'arrêter là, pour l'instant, en tout cas, Nancy, parce qu'on n'a pas tout dit concernant ces troubles. On se retrouvera la saison prochaine, en septembre, pour parler avec un de vos bénévoles, pour parler de ces troubles en milieu scolaire. Merci beaucoup, Nancy, d'être venue.
Merci.
La suite du LEM, c'est juste après une pause musicale.